Maupassant, opinion publique. Comme 11 heures venaient de sonner, messieurs les employés, redoutant l'arrivée du chef, s'empressaient de gagner leur bureau. Chacun jetait un coup d'œil rapide sur les papiers apportés en son absence, puis après avoir échangé la jaquette ou la redingote contre le vieux veston de travail, il allait voir le voisin. Ils furent bientôt 5 dans le compartiment où travaillait M. Bonenfant, commis principal, et la conversation de chaque jour commença suivant l'usage. M. Perdri, le commis d'ordre, chercha des pièces égarées pendant que l'aspirant sous-chef M. Piston, officier d'académie, fumait sa cigarette en se chauffant les cuisses. Le fait chef vieil expéditionnaire, le père Grappe, offrait à la ronde la prise traditionnelle. Et M. Rade, bureaucrate, journaliste, sceptique, railleur et révolté, avec une voix de criquet, un œil malin et des gestes secs, s'amusait à scandaliser son monde. « Quoi de neuf ce matin ?» demanda M. Bonenfant. Bon, faut rien du tout, répondit M. Piston. Les journaux sont toujours pleins de détails sur la Russie et sur l'assassinat du tsar. Le commis d'ordre, M. Perdri, releva la tête et il articula d'un ton convaincu. Je souhaite bien du plaisir à son successeur, mais je ne troquerai pas ma place contre la sienne. M. Rade se mit à rire. « Lui non plus » dit-il. Le père Grappe prit la parole et demanda d'un ton lamentable « Comment tout ça finira-t-il » Monsieur Rade l'interrompit. « Mais ça finira jamais, papa Grappe. C'est nous seuls qui finissons, puis qu'il y a des rois, il y a eu des régicides. » Alors Monsieur Bonenfant s'interposa. « Mais expliquez-moi donc, Monsieur Rade, pourquoi on s'attaque toujours au bon plutôt qu'au mauvais ?» Henri IV, le grand, fut assassiné. Louis XV mourut dans son lit. Notre roi Philippe fut toute la vie la cible des meurtriers et on prétend que le tsar Alexandre était un homme bienveillant. N'est-ce pas lui d'ailleurs qui a émancipé les serfs ? Monsieur Rade haussa les épaules. « Mais n'a-t-on pas tué dernièrement un chef de bureau ? » dit-il. Le père Grappe, qui oubliait chaque jour ce qui s'était passé la veille, s'écria « On a tué un chef de bureau ?» L'aspirant sous-chef, M. Piston, répondit « Mais oui, vous savez bien, l'affaire des coquillages. » Mais le père Grappe avait oublié. « Non, je ne me rappelle pas. » Monsieur Rade lui remémora les faits. « Voyons, pas grave, vous vous rappelez pas qu'un employé, un garçon, qui fut acquitté d'ailleurs, voulut un jour aller acheter des coquillages pour son déjeuner. Le chef le lui défendit. Alors l'employé insista. Le chef lui ordonna de se taire et de ne point sortir. L'employé se révolta, prit son chapeau. Et le chef se précipita sur lui et l'employé, en se débattant, enfonça dans la poitrine de son supérieur les ciseaux réglementaires. Une vraie fin de bureaucrate, quoi. Il y aurait à dire, articula M. Bonenfant, l'autorité a des limites. Un chef n'a pas le droit de réglementer mon déjeuner et de régler sur mon appétit. Non. Mon travail lui appartient, mais pas mon estomac. Le cas est regrettable, c'est vrai, mais il y aurait à dire. » L'aspirant sous-chef, M. Piston, exaspéré, s'écria. « Moi, monsieur, je dis qu'un chef doit être maître dans son bureau, comme un capitaine à son bord. L'autorité est indivisible, sans quoi il n'y a pas de service possible. L'autorité du chef vient du gouvernement, il représente l'État dans le bureau. » Son droit absolu de commandement est indiscutable. M. Bonenfant se fâchait aussi. M. Rade les apaisa. Voilà ce que j'attendais, dit-il. Un mot de plus et bon enfant fonçait son couteau à papier dans le ventre du piston. Mais pour les rois, c'est la même chose. Les princes ont une manière de comprendre l'autorité qui n'est pas celle des peuples. C'est toujours la question des coquillages. Je veux manger des coquillages, moi. T'en mangeras pas. Si, non, si, non. Et cela suffit parfois pour amener la mort d'un homme ou la mort d'un roi. Mais M. Perdri revint à son idée. C'est égal, dit-il. Le métier de souverain n'est pas drôle au jour d'aujourd'hui. Vrai, oh, j'aime autant le nôtre. C'est comme d'être pompier. C'est ça qui n'est pas gai non plus. M. Piston, calmé, reprit. Mais les pompiers français sont une des gloires du pays. M. Rade approuva. Le pompier, oui, mais pas les pompes. M. Piston défend les pompes et l'organisation. Il ajouta. D'ailleurs, on étudie la question. L'attention est éveillée. Les hommes compétents s'en occupent. D'ici peu, nous aurons des moyens en harmonie avec les nécessités. Mais M. Rade secouait la tête. Vous croyez, vous croyez. Eh bien, vous vous trompez, monsieur. On ne changera rien. En France, on ne change pas les systèmes. Le système américain consiste à avoir de l'eau, beaucoup d'eau, des fleuves. Fi donc la belle malice d'arrêter les incendies avec l'océan sous la main. En France, au contraire, tout est laissé à l'initiative, à l'intelligence, à l'invention. Pas d'eau, pas de pompe, rien que des pompiers. Et le système français consiste à griser les pompiers. Ces pauvres diables, des héros, éteignent les incendies à coups de hache. Quelle supériorité sur l'Amérique, songez donc. Puis, quand on en a laissé retirer quelques-uns, le conseil municipal parle, le colonel parle, les députés parlent. On discute les deux systèmes, celui de l'eau et celui de l'initiative. Et un dignitaire quelconque prononce sur le tombeau des victimes. Non pas adieu, sapeur, mais au revoir. Non pas adieu, sapeur, mais au revoir. Voilà, monsieur, comment on agit en France. Mais le père Grappe, qui oubliait les conversations à mesure qu'elles avaient lieu, demanda « Où donc ai-je lu ce vers-là que vous venez de dire, non pas adieu sapeur, mais au revoir ?»« Mais c'est dans Béranger, » répondit gravement M. Rade. M. Bonenfant, perdu dans ses réflexions, soupira. « Quelle catastrophe, tout de même, que cet incendie du printemps !» M. Rade reprit. Mais maintenant qu'on peut en parler froidement, sans jeu de mots, nous avons le droit, je pense, de contester un peu l'éloquence du directeur de cet établissement. Homme de cœur, dit-on, n'en doute pas. Commerçant habile, c'est évident, mais orateur, je le nie. Et pourquoi ça ? Demanda M. Perdri. Parce que, si la faute des as qui le frappait n'avait attiré sur lui la commisération de tout le monde, on n'aurait pas eu assez de rire pour le discours de la palice dont il apaisa les craintes de ses employés. « Messieurs, leur dit-il à peu près, vous savez pas avec quoi vous dînerez demain. Moi non plus, oh, moi je suis bien à plaindre, allez. Heureusement que j'ai des amis. Il y en a un qui m'a prêté 10 centimes pour acheter un cigare. Dans des cas pareils, on ne fume pas des londresses. Un autre ami à ma disposition, 1,75 francs pour prendre un fiacre. Un troisième, plus riche, m'a avancé 25 francs pour me procurer une jaquette à la belle jardinière. Oui, moi, directeur du printemps, j'ai été à la belle jardinière. J'ai obtenu 15 centimes d'un autre pour autre chose. Et comme je n'avais plus même de parapluie, j'ai acheté un en tout cas, un alpaga de 5 francs 25 au moyen d'un cinquième emprunt. Puis mon chapeau lui-même étant brûlé, et comme je ne voulais pas emprunter davantage, j'ai ramassé le casque d'un pompier. Tenez, voilà. Suivez mon exemple, si vous avez des amis, adressez-vous à leur obligeance. Quant à moi, vous le voyez, mes pauvres enfants, je suis endetté jusqu'au cou. Or, un de ses employés n'aurait-il pas pu lui répondre « Mais qu'est-ce que ça prouve, patron ? Trois choses. Premièrement, que vous n'aviez pas d'argent en poche. Il m'en arrive autant quand j'ai oublié mon porte-monnaie. Mais cela ne prouve pas que vous n'ayez point de propriété, d'hôtel, ni de valeur, ni d'assurance. Deuxièmement, cela prouve encore que vous avez du crédit auprès de vos amis. Tant mieux, usez-en. Troisièmement, cela prouve que vous êtes très malheureux. Et parbleu, nous le savons, et nous vous en plaignons de tout notre cœur. Mais c'est pas cela qui améliorera notre situation. Vous nous la voyez belle, en vérité, avec votre équipement à la boutique à la 13. » Cette fois, tout le monde dans le bureau fut d'accord. Monsieur Bonenfant ajouta d'un air farceur. « J'aurais voulu voir toutes les demoiselles du magasin quand elles se sauvaient en chemise. » Monsieur Rad continua. « Je n'ai pas confiance dans ces dortoirs de vestales qui ont failli être rôtis. D'ailleurs, comme les chevaux de la compagnie des omnibus dans leurs écuries l'an dernier. Tant qu'à enfermer quelque chose, ce sont les lampistes qu'on aurait bien fait de mettre sous clé. Mais les pauvres filles de la lingerie, fi donc. Un directeur, que diable, ne peut pas être responsable de tous les capitaux reposant sous son toit. Il est vrai que ceux des commis ont flambé dans la caisse. Puis au moins ceux des demoiselles être saufs. Ce que j'admire, par exemple, c'est le corps pour rappeler les employés. Oh, messieurs, quel cinquième acte! Vous figurez-vous ces grandes galeries pleines de fumée, avec des éclairs de flammes, le tumulte de la fuite, l'affolement de tous, tandis que debout, dans le rond-point central, en savate et en caleçon, sonne à plein poumon un Hernani moderne, un Roland de la nouveauté. Alors M. Berdry, le commis d'ordre, prononça tout à coup. C'est égal, nous vivons dans un drôle de siècle, dans une époque bien troublée. Ainsi, cette affaire de la rue du Pinot. Mais le garçon du bureau entr'ouvrit brusquement la porte. Le chef est arrivé, messieurs. Alors, en une seconde, tous s'enfuirent, filèrent, disparurent, comme si le ministère lui-même eût brûlé.